place au Journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui de cette nomination aux États-Unis, la nomination de ce juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, un conservateur convaincu qui fait glisser encore un peu plus à droite cette haute juridiction responsable de veiller à la constitutionnalité des lois. On reviendra aussi sur les événements à Haïti. Ce week-end, le calme est revenu dans les rues de Port-au-Prince, mais la colère des habitants contre le pouvoir en place est bien présente. Le reportage d'Amélie Baron. Et puis on partira vers la Californie pour parler de la prise de fonction de la nouvelle maire de San Francisco, London Bridge. Une femme donc, et une femme de couleur. C'est la première fois qu'une femme noire accède aux fonctions dans une municipalité aussi grande aux États-Unis. Bonjour Sarah Colzolino.
Bonjour.
Vous avez feuilleté pour nous la presse américaine aujourd'hui. La nomination de ce nouveau juge, Brett Kavanaugh, à la Cour suprême, fait couler beaucoup d'encre dans les journaux américains, Sarah.
Oui, on écoute un extrait de son discours.
Le 30 years ago. President Reagan nominated Anthony Kennedy to the Supreme Court. The framers established that the Constitution is designed.
Le juge Kavanaugh revient sur la nomination il y a 30 ans du juge Anthony Kennedy par le président Ronald Reagan. Il estime que Kennedy a passé sa carrière à défendre la liberté et déclare qu'il en fera de même. Et tous les éditorialistes y vont de leurs commentaires, car le thème des libertés individuelles est au cœur du débat après la nomination du juge à la Cour suprême. Brett Kavanaugh pourrait déplacer la Cour radicalement vers la droite. Le Sénat devrait faire attention, prévient le Washington Post, alors que le Wall Street Journal en fait un champion de la sauvegarde de la Constitution. Le New York Times est beaucoup plus inquiet. Après Kavanaugh, le déluge.
Alors Sarah, pourquoi un tel déluge justement, et quel est l'enjeu de cette nomination pour les journaux américains ?
Pour le New York Times, la nomination de Kavanaugh représente un véritable tournant sur les questions sociétales comme l'avortement. Ce catholique revendiqué pourrait rejoindre les juges conservateurs qui tentent d'annuler l'amendement Roe versus Wade qui concerne ce droit, mais ce n'est pas encore très clair.
C'est donc un moment test, si l'on peut dire, pour le mouvement conservateur.
Oui, c'est un moment test, Anne. C'est de ce qu'estime en tout cas le New York Times. Nous allons voir si un juge formé par la philosophie et les principes conservateurs votera effectivement dans le sens d'une annulation de l'amendement Roe versus Wade. Dans tous les cas, conclut le quotidien, après Brett Kavanaugh, la politique concernant l'avortement ne sera plus jamais la même.
Les journaux américains qui reviennent aussi sur le parcours de ce proche de George W. Bush.
C'est à lire dans le Wall Street Journal. Le quotidien économique considère que pendant ses 12 années à la cour d'appel du district de Columbia, ce juge est devenu un véritable gardien de la Constitution. Il n'hésite pas à s'opposer au gouvernement quand il estime que c'est nécessaire. Et le Wall Street Journal poursuit, contrairement à ce que clament les démocrates, rien ne prouve qu'il se dressera en pourfendeur du droit à l'avortement.
On reste aux États-Unis, Sarah, où la police de l'immigration, ICE en anglais, fait toujours débat.
Avons-nous perdu notre humanité, s'interroge USA Today. Le quotidien revient sur le fait que des enfants soient présentés seuls face aux juges pour être renvoyés dans leur pays d'origine. Des enfants dans des cages, dès l'âge de 3 ans, s'indigne l'éditorialiste, alors que le seul crime de leurs parents a été d'essayer de protéger leur enfant de la terrible violence des rues de leur pays d'origine. Dans une tribune aussi, le Newsweek donne la parole à Linda Sarsour. Maintenant que vous voyez la brutalité de l'ICE, aidez-nous à l'abolir, lance cette militante des droits de l'homme.
On passe à l'actualité en Haïti maintenant. Après 3 jours de violence, Haïti a connu hier un retour au calme. Les barricades ont été déblayées, mais la peur d'une reprise du mouvement a retenu l'immense majorité des gens chez eux. Dans les quartiers, les personnes cherchaient surtout à s'approvisionner en eau potable. Une crise qui a pris sa source dans l'annonce par le président Jovenel Moïse d'une hausse des prix du carburant, une mesure retirée depuis. La colère contre le pouvoir exécutif est en tout cas intacte en raison de la très mauvaise gestion de cette crise qui a fini d'amenuiser la confiance que portaient au président toujours certains électeurs. À Port-au-Prince, le reportage d'Amélie Baron.
Devant la rue déserte, un petit groupe de vie sur les diverses rumeurs qui circulent via les réseaux sociaux. Fatigué de l'absence de mesures concrètes après la vague de violence qu'a connue la ville et le pays, Carlo Simon est convaincu que Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir.
Léon, mon vote et mon président, c'est pour la vie meilleure.
Quand on vote pour un président, c'est pour avoir une vie meilleure, même si après l'élection, on voit tous les prix augmenter, c'est terrible. Ce monsieur n'est pas le président du peuple. Voyez comment le peuple lui demande de partir. Il ne pense que pour les riches, pas pour le peuple. Ma carte électorale, c'est mon arme. Quand on vote pour un citoyen, il devrait avoir du respect pour les heures qu'on a passées sous le soleil pour ça.
Sans changement majeur sur la scène politique, la colère populaire ne va faire qu'augmenter. Face à cette crise aussi soudaine que profonde, la communauté internationale a appelé lundi au respect de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire entre autres au maintien du président au pouvoir. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et en Haïti, justement, la colère des habitants se ressent aussi dans les journaux, Sarah.
Oui, plusieurs éditos sont à lire sur le site du Nouvelliste. Ils évoquent le casse-tête du président Jovenel Moïse. Il doit maintenant assister au balai des réunions et couper des têtes, écrit le quotidien. Le Forum économique du secteur privé, un regroupement d'associations patronales d'Haïti, a publié hier une note cinglante selon le Nouvelliste. Une note dans laquelle le Forum demande la tête du Premier ministre et évoque la carence de leadership du président, selon l'analyse du Nouvelliste.
Et un autre éditorialiste accuse le président d'être le seul à ne pas avoir vu venir la situation.
Oui, c'est toujours à lire dans le Nouvelliste. Le journaliste Alphonse Robertson appelle le président à se remettre en question et il ne mâche pas ses mots. Selon lui, Jovenel Moïse est enfermé dans sa bulle et dans ses obsessions. Il navigue à vue. Mais pour l'auteur, il n'est pas trop tard. Le président peut remettre les pieds sur terre. Il a le choix entre se réinventer ou perdre le pouvoir avant la fin de son quinquennat, conclut l'éditorialiste.
Direction le Nicaragua à présent. Les attaques contre eux, des membres de l'église font la une des quotidiens, Sarah.
Oui, il faut regarder la une d'El Nuevo Diario pour comprendre l'ampleur du conflit dans ce pays. Sur les quatre images du journal, toutes sont liées aux violences qui ont éclaté depuis plusieurs mois et ne font qu'empirer. Deux photos violentes, des hommes cagoulés qui frappent un évêque ou qui agressent des journalistes et deux autres photos, conséquences de cette même violence. Une paroisse pillée à Rinotepe et une mère qui pleure la mort de son fils, un policier tué par d'autres policiers parce qu'il voulait quitter son poste.
Même chose pour la Prensa, l'autre quotidien national.
Désespéré, Ortega agresse les évêques, titre La Prensa. Le quotidien diffuse une illustration parlante. Quatre armes de guerre, notamment normalement utilisées exclusivement par des militaires. Elles sont aux mains des paramilitaires, selon les experts cités par le journal.
Pour terminer, Sarah, nous allons parler de la crise climatique et alimentaire en Amérique centrale. L'édition latino-américaine du journal El País nous explique pourquoi le corridor sec en Amérique centrale doit faire les gros titres aujourd'hui.
C'est un éditorial signé Fernando Mudara. Il dirige l'association Ayuda en Action. Dans le monde, il y a des zones très affectées par les changements climatiques. Pourtant, ce sont ces mêmes zones que nous ne voyons pas dans les médias, s'indigne Mudara. Et il tente de l'expliquer, peut-être parce qu'elles ne produisent pas de matières premières stratégiques chères et ne consomment pas de biens ni de services de qualité.
Alors, de quel lieu nous parle-t-il exactement?
Eh bien, il nous parle du corridor sec d'Amérique centrale, une bande de terre qui va du sud du Mexique jusqu'au Panama et qui souffre depuis 2009 de phénomènes extrêmes récurrents, des périodes de sécheresse, d'inondations, de glissements de terrain. La conséquence, c'est bien sûr la baisse des rendements dans tous les secteurs, l'élevage, l'agriculture, l'apiculture, la pêche, la culture de canne à sucre, entre autres. En 2015, après la pire sécheresse de ces 30 dernières années, 3 millions de personnes se sont retrouvées en situation d'insécurité alimentaire grave. La population est obligée de fuir. Nous devons agir, s'exclame Mudara, sinon nous serons les témoins d'un dénouement fatal.
Merci beaucoup Sarah Colzolino pour cette revue de presse des Amériques. À bientôt. Une élection qui fera date aux États-Unis. La nouvelle maire de San Francisco est noire. Elle s'appelle London Breed. Elle a 43 ans. Et étonnamment, aucune femme de couleur n'avait jusqu'ici dirigé une municipalité aussi grande aux États-Unis. Mais San Francisco et la Californie sont décidément des lieux à part. Elle a en tout cas fait campagne en mettant en avant ses origines modestes et en promettant de lutter contre la crise du logement et la pauvreté dans la ville. Un dossier signé Victor Zamit.
Bonjour, je suis London Breed, la présidente du conseil municipal de San Francisco. Je présente ma candidature à la mairie de San Francisco parce que je pense que nous traversons un moment historique. Je veux résoudre tous les défis auxquels nous faisons face. Le logement, les sans-abri, la sécurité. Je veux une ville où tout le monde puisse réussir, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez.
London Breed, un pur produit de San Francisco. Elle y est née, y a grandi, y a fait ses études, y a débuté sa carrière politique et maintenant, elle en est mère. Joseph Tuman est professeur de communication politique à l'université de San Francisco.
Elle était au conseil municipal de San Francisco et elle a eu comme mentor l'ancien maire de la ville, Willie Brown, qui est un homme politique très connu en Californie. London Breed a grandi dans un quartier pauvre et d'après ses origines, on pourrait penser qu'elle serait une femme politique progressiste. Mais en réalité, on la présente plus comme une libérale. Je pense que la première raison à cela, c'est que, contrairement à d'autres hommes politiques progressistes de San Francisco, qui sont très à gauche, London Breed est ouverte au monde de l'entreprise. Elle croit au développement des entreprises. L'ancien maire, justement, Willie Brown, croyait lui aussi au développement des entreprises à San Francisco, parce qu'il avait compris que les autorités municipales allaient prélever plus d'impôts grâce à elle. Et c'est comme ça qu'il a obtenu de l'argent pour les services municipaux, notamment pour les pauvres et pour les sans-abri.
Les pauvres, les sans-abri, le marché de l'immobilier, voilà les problèmes qu'a promis de résoudre London Breed durant sa campagne. Joseph Tuman.
Quand elle était au conseil municipal, elle n'a pas beaucoup proposé de projet de loi. Il y en a eu très peu, à vrai dire. Donc, si on se base sur son passé politique, ce n'est pas très clair aujourd'hui de savoir ce qu'elle fera en tant que maire. Elle a dit dans des discours de campagne qu'elle voulait qu'il y ait plus de logements abordables qui soient construits à San Francisco. Bon, c'est gentil de dire ça, mais la réalité, c'est que San Francisco est une ville extrêmement chère.
Tellement chère que le coût de la vie de San Francisco est aujourd'hui le plus élevé du pays, après New York. Cette explosion du marché immobilier s'explique par l'arrivée à San Francisco de travailleurs riches, notamment des salariés et des entreprises de la Silicon Valley. Mais pour Joseph Tuman, que London Breed parvienne ou non à rendre San Francisco moins cher, son accession à la mairie de la ville est déjà pour ses habitants un symbole.
Elle n'est pas la première afro-américaine à devenir maire de San Francisco, puisqu'il y a déjà eu Willie Brown. Elle n'est pas non plus la première femme à diriger la ville. Nous avons eu Dianne Feinstein. Mais nous n'avions jamais eu de maire à la fois femme et afro-américaine. Et son cas est assez rare dans le reste du pays. Il y en a, mais pas dans des villes aussi grandes que San Francisco. C'est un symbole assez fort parce que, généralement, les Afro-Américains sont exclus, marginalisés de la vie politique américaine. Et cette marginalisation est encore plus forte pour les femmes afro-américaines. Donc, le fait d'avoir une femme maire, comme London Breed, est quelque chose d'important, mais pas très surprenant pour une ville comme San Francisco, où les habitants sont à gauche et s'attendent à de tels résultats.
Élu pour remplacer Ed Lee, l'ancien maire de San Francisco, mort brutalement avant la fin de son mandat, London Breed a désormais moins de 2 ans pour faire ses preuves en tant que maire de la ville sur la baie.
Merci Victor Zamit et justement on écoute Maxime Le Forestier pour San Francisco.
C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, psy. Attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux. On s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre.
Maxime Le Forestier, San Francisco, tout de suite, le journal Outre-mer Première.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Tiziana Marron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
En Martinique, un vaste coup de filet a été mené dans le milieu de la prostitution. 3 appartements ont été placés sous scellés par la justice dans le quartier de Thérèse-Saint-Ville à Fort-de-France.
La brigade mobile de la police aux frontières a procédé à 9 interpellations le 27 juin. À l'issue des gardes à vue, 4 suspects ont été mis en examen avec les chefs d'inculpation de proxénétisme aggravé et de traite humaine. Dans cette affaire, les personnes qui louaient des logements n'ont pas été épargnées. Renaud Godeuil, le procureur de la République, au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique La Première.
Les investigations ensuite ont été réalisées afin de matérialiser ces faits de prostitution et enfin surtout de pouvoir retrouver quelles étaient les personnes qui se cachaient derrière cette prostitution, c'est-à-dire ceux qui commettaient des faits de proxénétisme et de traite des êtres humains, parce qu'en l'occurrence c'est également ce sur quoi porte ce dossier. Ces personnes encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement et en l'occurrence des personnes qui avaient un rôle différent. Deux d'entre elles ont été mises en examen pour ce qu'on appelle essentiellement du proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire la mise à disposition de lieux permettant donc cette activité de prostitution, et deux autres qui ont été mises en examen pour avoir en l'occurrence récolté les fonds par les personnes se livrant à la prostitution.
Les passagers d'Air Guyane préfèrent la pirogue. C'est une situation vécue par les habitants de Grand Santi, commune située sur le fleuve Maroni, qui constitue la seule voie d'accès terrestre. Des annulations répétées des vols intérieurs de la compagnie aérienne poussent les habitants à la traverser en pirogue. Le reportage est signé Ocelia Cartès de Guyane La Première.
Aujourd'hui, Air Guyane, c'est Air peut-être.
Martin Joseph est habitant de Grand Santi. Son avis est tranché.
On n'est pas sûr s'il y aura d'avion ou pas.
L'annulation à répétition des dessertes de la compagnie Air Guyane le pousse à bouder l'aérien pour la voie fluviale.
Donc la pirogue, lorsqu'on dit qu'on part, on part. La plupart du temps, soit j'ai vu en jet.
Une délégation de services publics défaillante, c'est aussi le constat de Silver Hanno, enseignant en histoire-géographie au collège Ashmat Kartadinama de Grand Santi.
C'est pas que j'ai préféré la voie fluviale, c'est parce que l'avion était en panne. Je me suis rabattu sur l'option pirogue.
Panne régulière des aéronefs, réservations annulées ou encore des appareils qui n'effectuent pas les arrêts prévus. Les griefs ne manquent pas. Alors s'il faut pallier la difficulté avec l'utile en tournant le dos à l'agréable, autant le faire à moindre coût.
C'est équivalent, hein, 35 euros pour aller à Saint-Laurent et après 35 euros. C'est même un tout petit peu moins cher, mais c'est beaucoup plus long.
Coupe du monde de football avec la France qui affronte la Belgique cet après-midi à 16h, heure de Paris. Qui va accéder à la finale? Viviane Dufoué-Dos de Guyane La Première est allée à la rencontre d'un supporter belge au sein d'une entreprise de Cayenne.
On a joué contre numéro 2, le Brésil, et on leur a flanqué une raclée. Votre dernier match, vous l'avez joué contre l'Uruguay. L'Uruguay est 14e, donc il n'y a pas besoin de faire un foin.
Seul, contre tous. Défenseur des Belges, dans cette équipe d'employés de bureau, il fait du bruit pour 11.
Il n'y a qu'un Belge ici, donc il est tout seul à être content. Mais c'est très animé quand même. Pour une personne, il met quand même l'ambiance.
Selon les pronostics de ce gérant d'entreprise, ses compatriotes sont déjà en finale. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les données, dit-il. Patrick Latour dit aussi ne pas être arrogant, mais juste pragmatique.
Statistiquement, ça fait plus de 2 ans que la Belgique n'a pas perdu un seul match.
Un beau match en perspective, fin de cette édition, bonne journée.
Bonne journée également à vous, merci Tiziana Marron pour l'actualité des Outre-mer. Pour finir, je vous signale un mot du prix Théâtre RFI. 12 textes ont été présélectionnés parmi les 168 candidatures reçues. Et un Haïtien, félicitations à lui, a été retenu dans cette présélection. Il s'agit de Jean d'Amérique pour son texte Avili.